un instant, resserre les vitres.
Ces dernières années, tout autour de moi, plusieurs personnes ont fait des séjours d'urgence en psychiatrie. On peut péter un plomb, une fois ou deux, à un moment de sa vie, et puis s'en remettre, ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui craquent et d'autres qui résistent, que certains s'en sortent et d'autres pas? Comment ne pas perdre le nord?
C'est à 45 ans qu'on m'a diagnostiqué maniaco-dépressif. J'avais fait 2-3 dépressions entre 30 et 45 ans, et puis une crise maniaque. À 45 ans, je travaillais pour la Commission européenne, je pilotais un séminaire au Portugal, et j'ai fait n'importe quoi. Je dormais 3 heures par nuit, j'étais très excité, je ne tenais pas mon rôle. J'étais au marché, j'ai acheté une hache, et puis j'ai apporté la hache devant la directrice du département de la commission qui m'avait embauché, en disant « comme ça vous pourrez conduire la réunion ». D'accord. Et une fois revenu à Bruxelles, elle m'a signifié « écoutez, dans 3 mois, je ne renouvelle pas votre contrat ».
Les hallucinations, j'en ai pas tellement eu, qu'elles soient auditives ou visuelles, ou tactiles, ou sans, enfin, en tout cas sensorielles, forcément. Je pensais que mes délires et tout ça étaient une part de réalité qu'on m'avait mis dans le cerveau, enfin, de façon très, très machiavélique, pour que je comprenne une certaine réalité qui était autre. Alors, je me suis transformé en cyborg, j'ai vu des choses, des flashs des mains comme si vous tiriez très vite une corde, avec plein d'éclairs de couleurs comme dans une BD, enfin, comme dans un cartoon, mais qui monopolisait toute la vision. Ça durait, je sais pas, très peu de temps, mais ça fout dans une tétanie, ça fait peur. Mais le cerveau, ne comprenant pas cette peur, l'interprète comme un élément donc bénéfique à la suite des événements.
La grosse expérience, c'est 2005. Le contexte, c'est que j'étais parti en Inde 2 mois, seul, et qu'au bout de 15 jours, j'ai arrêté le lithium. Donc le stabilisateur d'humeur que j'avais, je l'ai arrêté parce que l'Inde me faisait tellement vibrer la sensibilité que je me suis laissé aller à dire maintenant je veux vivre ça dans toute son ampleur. Et il faut dire que l'Inde, je ne sais pas si tu y as été, moi j'ai vécu 10 jours à Calcutta, il y a une foule incroyable, tout se passe dans la rue. Les gens mangent dans la rue, dorment dans la rue, meurent dans la rue, parlent, s'ennuient, crient, travaillent. Et donc par rapport à ce que tu vis ici, où tout est policé, où depuis la Révolution française, tout a été fait pour que la rue soit l'endroit où rien ne se passe. Hein. Et on met tout dans des compartiments, les jeunes à l'école, les fous à l'asile, les vieillards, on ne veut plus les voir, la mort est invisible. En Inde, tout est visible. J'étais seul, je ne parlais pas anglais, donc j'ai rarement eu l'occasion de partager. Donc j'ai tout encaissé Et je suis revenu là, et j'ai commencé à délirer seul, sans me soigner, ni rien.
Quand j'ai demandé de l'aide, ça c'était assez radical dans mon cerveau. Je me souviens encore assez bien que j'étais en plein de crise, donc assez délirante et tout, que j'admettais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait même des sites internet qui étaient faits à mon égard pour savoir où j'étais, ou ce que je pensais, comment j'agissais et tout, avec des points verts, des points oranges, des points rouges. Tous les points rouges étaient à recommencer, donc c'était vraiment des étapes que je devais accomplir. Une sorte de quête, oui. Je ratais toutes les étapes qu'on essayait de me faire comprendre. J'imaginais mon site où il y avait le petit point rouge, orange, vert, tout ça. Il y avait très peu de vert, tout était en rouge, donc il n'a pas fait ça, il n'a pas bien fait ci, il n'a pas dit ceci correctement. Mais ça s'arrêtait à des broutilles, comme juste la diction d'une phrase. Si j'avais inversé deux mots, bah, j'aurais réussi le truc. Mais non, j'ai foiré parce que tac, j'ai pas mis les mots dans le bon ordre et tout ça. Puis ça laisse sous-entendre que ceci, alors que c'est pas le cas. Enfin, c'est très complexe. Et l'alcool, j'ai vraiment commencé en disant, bon, ben voilà, vous me faites du mal. Ça me détruit. Donc on verra bien qui ira le dernier. Autrement dit, qui me détruira le premier. Et là, je voulais gagner. Et donc j'ai commencé à boire à outrance, je suis devenu alcoolique et tout. Mais de façon très consciente, j'ai vraiment eu ce raisonnement, j'ai réfléchi pendant je ne sais pas combien de temps, et c'est devenu comme seule solution. Je n'arrivais pas à mettre fin à mes jours, je ne suis pas suicidaire, je suis incapable de... Je peux me détruire, mais d'autres façons, quoi. Et c'est la meilleure façon, l'alcool, on en trouve partout, c'est pas cher. Ça détruit tout, les relations sociales, c'est vraiment la meilleure solution que j'ai trouvée pour aller dans le même sens que la conspiration. Les états du joint étaient recherchés pour les hallucinations, l'alcool pour la destruction, et j'avais l'héroïne pour me stabiliser le cerveau, parce qu'en fait c'était insurmontable comme situation. Donc je me suis mis à me shooter assez rapidement pour avoir du repos, vraiment mettre en stand-by mon cerveau pendant X nombre de temps. Et puis au moins le lendemain ou sur le lendemain, parce que ça dure quand même assez longtemps, un shoot d'héroïne, ben je savais pourquoi j'étais mal. C'est parce que je m'étais shooté, c'est pas bien de se shooter et tout ça. Donc je comprenais pourquoi je souffrais. Donc c'était pour alléger ma peine, quoi.
La folie, ça fait très peur. Je pense que ça fait très peur. Et c'est pour ça qu'on réagit de manière parfois si démesurée. Parce que les réponses qui sont justement déployées, c'est des réponses qui matent le trouble, qui masquent le trouble. Et qu'on aurait peut-être tout intérêt à nommer ce trouble, à parler de l'expérience du trouble avec d'autres mots que ceux du jargon médical ou psychiatrique, ou qui sont utilisés par nos proches, parce que parfois la famille aussi peut être très, elle a très peur, et donc parfois elle peut être très contraignante dans une expérience de transformation, parce qu'elle n'a pas tellement envie qu'on change. C'est très déstabilisant, mais en même temps, faut parfois laisser un peu d'espace à cette personne pour qu'elle puisse elle-même se remettre en récit, en fait, parce que c'est encore une histoire de récit et de mots, c'est de pouvoir mettre du sens dans ce qu'on est en train de traverser. Et donc, si peut-être on a tendance à trop masquer le trouble, à trop mater le trouble, alors peut-être on ne laisse pas d'espace à ce mot trouble et à ce qui peut devenir dans une histoire. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup inspiré aussi à l'autre lieu. Parce qu'en fait, les mots, ils prennent corps. Les mots, c'est nos outils pour penser. On a besoin des mots pour penser. C'est une manière d'équiper nos âmes, en fait. On est dans quelque chose de cet ordre-là. Mais donc, reprendre tous ces mots qui sont ceux qui nous entourent tout le temps et que les autres utilisent pour nommer ce que nous, on traverse. Et ça, c'est fondamental. Parce que faire cette traversée-là, il faut pouvoir la mettre en récit, il faut pouvoir la narrer, il faut presque pouvoir la fictionnaliser.
Si on recolle bout à bout, j'ai fait 2 ans et demi d'hôpital psychiatrique, dont mes 17 à 26. Souvent par la force, rarement de mon plein gré. Contre votre gré, la médication est très lourde. Elle est vraiment, elle vous rend HS, c'est détestable. Malheureusement, je dois dire que ça fonctionne. Et donc, c'est radical et c'est inhumain, quoi. Sans dialogue, hein. Donc ça, injection, tout ce que vous voulez, donc par la force, quoi. Et donc là, vous rentrez dans un train-train quotidien, vous avez des médicaments à la queue leu-leu, à l'infirmerie de l'unité. Donc on vous fait des injections, vous prenez des médocs, c'est vraiment très lourd, vous y restez plus d'une semaine complètement, mais hors de vos pompes, quoi. Ou en tout cas, un bon nombre de jours. Et pendant ce temps-là, vous ne savez pas réagir. Et le psychiatre vous la lance, voilà, vous êtes schizophrène, mais tout va bien aller, vous êtes pris en charge et tout. À cause des médocs, vous n'avez carrément pas le droit de poser des questions. Vous acceptez juste, vous faites oui. À la limite, vous bavez de la bouche, ça ne change rien. Il n'y a pas vraiment de respect de l'image non plus. Donc, on sent vraiment inférieur et diminué et tout ça par cette prise. Mais j'ai ingurgité donc son laus sur comment ça allait se passer. Puis en sortant petit à petit, en prenant des médocs plus légers, des doses moins fortes, petit à petit en sortant, vous réfléchissez et vous commencez à réfléchir par la suite parce que au départ vous réfléchissez plus, vous êtes déconnecté. Vous acceptez. Donc c'est encore une fois sous la contrainte. Et jamais, quand ça se passait mal, jamais on m'a proposé de réfléchir ensemble à une solution pour que le dialogue passe. Et donc, se mettre en récit, pouvoir se transformer, pouvoir trouver du sens dans ce qui est en train de nous arriver, pouvoir le mettre en mots, pouvoir se remettre dans du désir de quelque chose, de rallumer du feu en soi, non pas pour complètement flamber, non pas pour s'immoler, mais pour retrouver la base de cette étincelle-là. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que ça ne reflampe plus de manière douloureuse ou alors de manière beaucoup trop maniaque. Et donc, on va voir, nous, comment on parvient... C'est pas canaliser, parce que j'aime pas ce mot-là. Mais c'est... cette étincelle, en quoi est-ce qu'elle consistait? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? C'est une hypothèse de transformation.
Mais donc pour ça, il faut se mettre en récit avec soi ce qu'on a vécu dans une histoire familiale, une histoire scolaire, une histoire professionnelle, une histoire amoureuse, des histoires d'amitié, mais aussi pouvoir se mettre en histoire avec la plus grande histoire, qui est l'histoire justement du territoire, du milieu, du pays où on habite, qui porte aussi en elle certaines normes régulatrices qui influent et impactent l'expérience du trouble. Si on utilise le mot métamorphose plutôt que décompensation psychiatrique, ça va peut-être nous mettre sur un autre chemin, un autre type d'histoire. Alors peut-être pas, mais nous en tout cas on fait le pari de ça. Et donc si on parvient à mettre dans notre histoire transformation, envie, traversée, expérience, expertise, l'empathie, le souci, la rencontre, l'amitié, ça va faire advenir d'autres histoires dans lesquelles se projeter justement et qui auront un effet. Parce que ces mots-là, ils nous impactent, ces mots-là nous font penser les choses différemment. Et donc c'est eux qui vont faire advenir ces transformations individuelles, mais aussi ces transformations sociales auxquelles on aspire.
C'est un système où vous êtes pris en charge. Et ça, c'est un problème que je rencontre encore à l'actuelle. C'est un système où vous êtes totalement pris en charge. Amis, qu'on vous explique, qu'on vous explique pas, c'est le même résultat, vous êtes pris en charge. Et quand vous venez de sortir de l'adolescence, où vous avez acquis de la liberté, où vous êtes devenu jeune adulte et tout ça, bah, c'est un système que vous rejetez d'emblée. Quand j'arrivais chez le psychiatre, que j'avais une question, que je posais un truc, il me disait « mais oui ». Et alors, évidemment, vous finissez par l'insulter. Et alors, évidemment, quand vous l'insultez, vous êtes viré du bureau un petit peu. Et alors, évidemment, l'incompréhension envers ce qui vous arrive augmente et tout. Et cette psychiatre qui a eu un dialogue longtemps avec moi m'a donné confiance à tel point qu'à certaines de ces séances, je sortais des blagues qui me faisaient rire tous les deux. Où j'avais l'impression de redevenir un petit peu moi, où j'avais l'impression de dire ce que je pensais. Mais à part ça, il y en a eu deux, trois, mais c'est très rare, parce que j'en ai vu beaucoup, hein, des psychiatres. Je me suis fait même éjecter de certains bureaux en me disant « ne reviens plus jamais ici » alors que j'étais en crise et que je demandais de l'aide. Je crois que je lui ai sorti « vous avez eu votre diplôme dans un Kinder Surprise », enfin un truc, mais on s'en fout, quoi, tu vois. Donc il m'a éjecté, il préférait plus entendre parler de moi, quoi, je sais pas. En tout cas, il a bien gueulé devant tout le monde. J'ai dû passer devant tout le monde en train de m'engueuler. C'est pas chouette. C'est encore une humiliation supplémentaire, quoi. Au lieu de dire calmement, ben voilà, je n'apprécie plus comment vous agissez. Ne revenez pas, allez voir quelqu'un d'autre. Je peux plus vous gérer. Non, là, c'était l'engueulade. Donc c'est comme un gosse, quoi.
Moi, je dois quand même dire qu'à ma première hospitalisation, j'ai été très, très contenue en psychiatrie. Et les 2-3 mois avant d'être hospitalisée, j'étais très mal. J'étais dans des états d'angoisse intenses. Et c'est mon entourage qui m'a obligée à me faire hospitaliser. Et le jour où je suis arrivée à l'hôpital, ouf, j'étais complètement soulagée d'être prise en charge, d'avoir un contenant, parce que j'avais l'impression que mon corps ne suffisait plus, n'arrivait plus à me retenir. J'avais l'impression que j'allais sortir de ma peau, qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur et que mon corps allait se déchirer comme s'il y avait une bête ou un animal en moi. Et arrivée en psychiatrie, j'étais vraiment soulagée en me disant « Ouf, il y a des gens qui vont pouvoir m'aider ». Qui savent ce que c'est, qui vont me comprendre, et ça m'a beaucoup soulagée. Et chaque fois que j'ai été hospitalisée en psychiatrie, même si c'était à l'encontre de ce que je voulais, à chaque fois, j'ai vécu ça comme un soulagement. le retour que j'ai de ma famille, notamment quand j'étais petite, c'est que j'étais un enfant très fragile au niveau émotionnel. J'ai eu une adolescence très compliquée. Et puis, j'ai toujours senti en moi une hypersensibilité qui m'entraînait, malgré moi, dans des moments où je me sentais pas très, très stable. Mais je pense que j'ai toujours été très cadrée par mon boulot et par mon milieu professionnel et par le fait que j'avais mon petit garçon. Je devais l'élever et j'étais très heureuse avec lui. Donc, c'était un gros moteur. Puis, j'ai eu des choses très douloureuses dans ma vie. J'ai eu un cancer. Et puis, j'ai eu un autre épisode très douloureux, beaucoup plus douloureux que le cancer. C'est que le papa de Gilles, donc mon fils, est décédé. Mais à ce moment-là, je tenais vraiment le coup. J'étais très, très, très forte. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que Gilles a grandi, et quand il est devenu autonome, c'est comme si à ce moment-là, je m'étais autorisée à lâcher, et que le fait d'avoir tenu tellement, quand ça a lâché complètement. Et là, j'étais aussi dans beaucoup, beaucoup d'agitation intérieure. J'ai commencé à dépenser plein d'argent. Je me suis prise pour une chamane. Je voulais donner toutes mes affaires. Et puis, il y a eu un épisode majeur dans une pompe à essence où les responsables ont appelé le SAMU. Et donc là, c'était horrible. J'ai été hospitalisée dans une unité psychiatrique où j'ai été attachée et mise sous neuroleptique. Enfin, c'était très compliqué. Maintenant, j'arrive à supporter ce moment parce que la première année, quand je pensais à ça ou qu'on parlait de ça, j'étais très en colère par rapport au fait que j'avais été attachée et que j'avais été médiquée. Mais petit à petit, je me suis rendu compte avec l'aide de professionnels que si je n'avais pas été attachée et pas médiquée, sans doute que je m'en serais prise à moi-même et que je me serais fait très mal.
Soigner l'intranquillité de quelqu'un d'autre, ça fait appel à celle qu'on porte. Donc, dire qu'on est fou, je sais pas. Je trouve qu'il faut se méfier un peu, parce que n'est pas fou qui veut, quoi. Et que c'est un peu facile de dire qu'on est tous fous, quoi. C'est un peu vrai, on est tous un peu intranquilles. Et voilà. Bon, alors, il y a le fait qu'on est dans une époque un peu dure. Il y a peut-être plus de gens fous dans les époques un peu difficile, mais il y a aussi le fait qu'on a du mal avec le langage, je trouve, de nos jours. On peut parler un peu à tort et à travers, quoi, très facilement. Et donc, du coup, être soignant, c'est quand même un peu essayer de faire attention à ce qu'on dit. Et d'une certaine manière, il faut avoir quelques petites pistes dans la tête. Et moi, une des pistes assez claires, donc apprise aussi à la borne, c'est que la maladie, ça avait à voir avec l'arrêt. Avec le mouvement qui s'arrête. On est tous potentiellement fous, on est tous potentiellement complètement dépressifs, tous complètement paranoïaques, on est tous mélancoliques. Et en fait, la bonne santé, ça va être que dans ta journée ou dans ta vie, t'arrives à être un peu paranoïaque, un peu dépressif, et puis t'arrives à sortir de l'un pour aller vers l'autre, quoi. Et en fait, tomber malade, c'est vraiment s'arrêter sur un des facteurs. Et donc, devenir paranoïaque, c'est juste que t'arrives plus à être dépressif dans ta journée. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que moi, j'ai bien en tête quand je vois quelqu'un face à moi. Et je trouve que ça marche drôlement bien, cette idée-là. Enfin, c'est toute la question, et de savoir comment tu peux passer à autre chose. Et donc, ça peut être plus modeste que rendre dépressif l'autre personne, parce que c'est quand même compliqué de changer dans les grands changements comme ça. Mais par exemple, je sais pas, même changer de pièce ou changer d'ambiance, emmener quelqu'un qui arrive pas à bouger du tout, parce qu'il y a quand même le corps aussi qui s'en mêle. Et donc, des fois, quand t'es malade, t'arrives plus à bouger non plus. Mais bon, tu tentes en tous les cas en ce sens-là. Et moi, je trouve que c'est ça l'idée, quoi. C'est ça que j'ai en tête souvent. Comment on peut aller ailleurs, quoi. Et se promener un peu. Voilà, je parlais du corps, donc ça peut être une promenade. On va dans le jardin, c'est aussi bête que ça, parce que c'est pas facile de passer une porte pour certaines personnes. Mais c'est aussi les promenades dans la parole. Et puis on teste, enfin voilà, je sais pas. C'est compliqué, et en même temps, ce que j'aime bien, c'est que ça peut être simple aussi.
Quand j'ai fait ma grosse décompensation à la pompe à essence, ça c'est très personnel, mais je me sens à l'aise pour en parler, c'est que tout mon passé m'est revenu en plein de figures parce que je suis tombée très amoureuse de mon compagnon, que je connaissais très très peu. En fait, on s'était vu peut-être deux, trois fois avant que je parte en France en vacances. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand je suis arrivée là-bas, je l'ai appelé. Je lui ai dit, je ne vais pas tourner autour du pot, mais viens me rejoindre. Au début, il était un peu surpris. Et il est quand même venu me rejoindre. Et là, on a passé 8-10 jours ensemble. Des jours très, très chaotiques pour moi. Parce que je ne pensais pas rester si longtemps. Donc, j'avais pris mes médicaments que pour une semaine. Et je me suis retrouvée sans mon traitement. Et j'ai cru que sans mon traitement, ça allait aller très bien. Et en fait, pour moi, ça allait très, très, très bien. Sauf que lui, il trouvait que j'allais pas bien du tout parce que j'étais très haute, j'étais en hypomanie franche. Mais moi, l'hypomanie, c'est quelque chose de très agréable. Et parfois, j'ai même des regrets de cette période très haute où je me sens capable de tout, où je suis très, très créative, etc. Et on est tombé en panne de voiture. Mais la panne de voiture, c'était vraiment un concours de circonstances totalement inattendu. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, je faisais un délire sur le carburant qui était frelaté. Et en plus, ma voiture tombe en panne. Donc, ça alimentait mon délire. Et je disais même, mais tu vois, la voiture est en panne. C'est que c'est clair, quoi. Il y a un problème avec ce carburant. Donc, les couches se sont rajoutées, rajoutées, re-rajoutées. Et en fait, j'ai voulu aller prendre une douche chez les camionneurs parce qu'on devait dormir à la pompe à essence parce que le garagiste ne pouvait pas venir pendant la nuit. Donc, je me suis dit, OK, c'est bon, je vais aller prendre une douche. Et en fait, quand je suis arrivée à la douche, j'ai commencé à avoir très, très, très peur. Mais je ne suis pas du tout quelqu'un de trouillarde. Mais peur au point de demander à Gérald de venir avec moi dans la douche. Mais pour lui, c'était complètement incohérent parce que j'avais été très pudique pendant la dizaine de jours. Et puis là, tout d'un coup, je lui dis, il faut que tu viennes avec moi. Et donc, il est venu avec moi. Donc, j'ai commencé à me déshabiller. Et au plus je me déshabillais, je me voyais dans le miroir et j'arrivais plus à me reconnaître dans le miroir. Et j'ai commencé à voir, en fait, le visage de gens qui m'ont violentée quand j'étais petite, et notamment au niveau de ma sexualité. Et j'ai plus réussi à faire la part des choses, en fait. J'ai commencé à hurler, j'ai démoli la douche, j'ai démoli le miroir avec lui qui était mort de trouille parce qu'il avait peur qu'on l'accuse d'avoir fait quelque chose. Donc il est sorti de la douche, et moi je me suis enfermée, et j'ai commencé à me faire mal en plus, à me blesser. Il y avait du verre partout. Et en fait, il y avait une grosse faille en moi et toute l'angoisse s'est engouffrée à ce moment-là. Heureusement, il était minuit, donc il n'y avait pas encore trop de monde. Mais je suis sortie de la pompe à essence en hurlant nu que je me battais pour toutes les femmes du monde entier qui avaient été violées, excisées, maltraitées. J'abordais les hommes nus en leur disant de baisser les yeux. Enfin, c'était vraiment... c'était terrible. Et en même temps, ça a du sens. Ce que j'ai fait, c'était délirant par rapport à la norme de la société. C'est des choses qui ne se font absolument pas. Mais quelque part, c'était la vérité. Je me battais pour les femmes du monde entier qui ont été violées, excisées, maltraitées, quoi. Et après coup, effectivement, c'est un épisode de manie. Mais ça a du sens, quoi. Quand je refais le parcours de ma vie et de la brutalité que j'ai vécue dans certains domaines de ma vie, ben oui, je me bats pour ça, quoi.
J'ai aussi imaginé, déliré, que Françoise en voulait à la sécurité de mes filles et qu'elle complotait pour les assassiner. Et donc, moi, j'ai rêvé que je tuais Françoise. Même si je n'ai pas été meurtrier, mais c'en arrivait à être habité, à se découvrir potentiellement dans sa conscience meurtrier. Je devenais assez dangereux. Ce qui fait que des années plus tard, je me suis dit, au fait, la maniaco-dépression, c'est une maladie du lien à l'autre. Il n'existe plus d'autre dans ton existence, il n'existe que toi, un ego hyper amplifié. Tu n'as plus le cap sur l'autre. L'autre devient un potentiel ennemi. Donc, ça arrivait là. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé comme soin depuis 2005, c'est d'une part, bon, il y a des médicaments, comme le lithium ou d'autres. C'est ce qu'on appelle des stabilisateurs d'humeur. Mais pour moi, ce n'est qu'une partie du soin. Je veux dire, si je n'ai pas fait de crise en 12 ans, c'est que j'ai mis d'autres choses en place. Je médite chaque matin, une demi-heure, avec Françoise. Et donc le fait de le faire à deux, ça tient. Si tu devais le faire seul, je ne sais pas si je serais encore à le faire tous les matins, une demi-heure. Et méditer, c'est quoi ? C'est regarder l'absence de soi. C'est regarder tout ce qui passe, c'est être spectateur du cirque mental. C'est fou ce qui peut se passer en une demi-heure comme idée, image, souvenir. Et tout ça, tu te mets dans la position de témoin, tu laisses passer.
en travail psychothérapeutique, il s'est avéré que ce serait bien que je commence des études pour me structurer. Et tout de suite, je me suis orientée vers des études d'infirmière. Et puis, quand j'ai postulé à Font-Roi, j'ai eu plusieurs entretiens d'embauche. Et le dernier entretien que j'ai eu, c'est avec la chef de service. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais j'ai déjà vu quelque part cette femme. Et elle s'est dit exactement la même chose. Et quand l'entretien s'est terminé, je me suis dit, oh, merde, c'est l'infirmière qui m'avait soignée en psychiatrie quand j'avais 18 ans. Merde. Et je viens de postuler dans son unité de psychiatrie. Et je me dis, mais c'est pas possible. Elle m'a sûrement reconnue et j'étais très mal avec ça. Donc avant de signer mon contrat, je l'ai appelée pour avoir un moment d'entretien avec elle, et je lui ai dit j'ai pas envie de passer sous silence l'endroit où on s'est rencontrés. Et elle m'a justement dit mais je t'ai reconnue et je suis désolée parce que ça a dû te mettre très très mal à l'aise, mais pour notre service c'est une grande richesse que tu sois passée par là aussi.
C'était La Mue avec G, Florence, Bruno, Aurélie Aix, Marianne Rotik. Réalisation, prise de son et création sonore, Jane Debauche. Montage, Sébastien Demeff. Son additionnel et recherche sonore, Mehdi Ayari. Mixage, Aurélien Lebourg. Orgue joué par Nicolas et Micha Desamori. Avec la complicité de Sarah Fautré, Julie Laba et Strike Lusiki. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radio et de l'ACSR, merci à l'atelier Grafouilly et à l'AJC, à Art Recherche ASBL et au groupe de recherche Folie Cinéma. Merci à l'atelier Chaos, la cathédrale d'Aviotte et au Cinéma Nova. Merci à l'équipe d'Active Brussels, à la résidence Ad Libitum, à Jan Zoonens, Bruno De Koning, Patrick Lefler, Gilles et Emmanuel Batz, Julie Perry, Alain Thion, Virginie et Loïc Debauche, Monica Warren. Merci à Amandine, Gérald, Victor, Mathias, Constance, Mireille. Et merci aussi à Émilie Bregueux, Gaël Rouard, François Rapaille, Paola Steven, Christine Gillard et Lucille Desamory pour leur écoute attentive.